7h, 9h, la matinale de Nova. Avec Marie Bonisso et Queenie Tassel pour que tu rêves encore, 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 encore. Nova.
C'était un genre de repas. Il y avait plein de gens que je connaissais, des gens de mon collège, de mon lycée, qui étaient tous en train de manger ensemble. Il y a le directeur de mon école qui arrive, qui nous voit, et là, il me lance une meute de scorpions. Je prends un verre d'eau, je jette le verre d'eau au milieu de l'attroupement de scorpions qui arrive devant moi. Mais au final, il m'attrape complètement, il me recouvre complètement le corps, et ben là, c'est le réveil, quoi. Ça tapait peut-être un peu fort dans ma tête.
Nova.
Et je savais qu'à partir de là, je pourrais pas m'endormir.
Pour que tu rêves encore.
C'est quoi ce directeur qui envoie des scorpions sur ses élèves ? C'est quoi ces élèves qui pensent qu'il faut envoyer un verre d'eau sur des scorpions pour se défendre ? Le monde est une jungle ce matin. Heureusement qu'on est là pour vous sauver. Bonjour Queenie.
Bonjour Marie.
Ça va mon petit scorpion ?
Non, moi je suis vierge.
Ah pardon, autant pour moi. On dit bonjour aux gens ?
Allez, c'est parti.
Vous allez voir, il y en a pour tous les signes ce matin. Bonjour à toutes, à tous et à tous. Nous sommes jeudi 13 février. Aujourd'hui, c'est quoi, Queenie ?
Bah, la Saint-Valoche.
Non, ça c'est demain. Aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de la radio.
Mmh.
Bonne fête, Queenie.
Bonne fête, Marie.
Non, vous, bonne fête, Queenie.
Non, j'insiste.
Ah, j'ai envie
Marie.
De lui faire un bisou.
Ah.
J'ai lu sur le site de l'UNESCO que la radio était le média le plus consommé au monde.
Ah bon ?
Et c'est 0,00001% de votre faute, Queenie.
Bah, merci.
Consommez-nous, chers auditeurs. On fait ça dans 20 minutes avec un Nova All Stars. Bonjour également à toute l'humanité ce matin. C'est des larges bonjours, hein, vous avez vu.
Oui.
L'humanité qui vient de prendre un coup de jeune, d'un coup, grâce à la nomination du doyen de l'humanité par le Guinness des records. C'est tombé cette nuit, 112 ans. Il est japonais. Il dit que s'il a tenu si longtemps, c'est parce qu'il est resté calme et souriant toute sa vie. Shitetsu, c'est son prénom, et donc officiellement l'homme le plus vieux du monde. Et tout ce qui est moins âgé est donc plus jeune.
Oui,
c'est de la logique,
logique.
Et ça fait toujours du bien de se dire ça. En ce qui concerne les femmes de l'humanité, il paraît qu'il y en a un paquet aussi.
Oui.
Là, ça bouge pas. Record toujours à 117 ans,
yes.
Avec une doyenne japonaise aussi.
Quoi leur secret au Japon ?
Eh bien, calme et souriant.
Qu'à ça ?
Ouais, bon, on va peut-être mourir bientôt, nous.
Ouais.
Voilà, et puis ce matin, je voudrais aussi faire un bisou tout spécial à toutes les sistas saoulées, parce que putain, ça tombe aujourd'hui.
Ouais.
Et que ouais, c'est pas le bon jour, et que c'est jamais le bon jour. Bonjour à toutes celles qui ont leurs règles aujourd'hui. Les gars, ne faites pas des... c'est dégueulasse. Sachez que ça nous arrive très régulièrement.
Mmh.
Et pour une fois, un début de bonne nouvelle dans ce dossier menstruation, les distributeurs de serviettes et tampons arrivent enfin en France. Dans des lieux publics, ce sera gratos pour les femmes qui n'ont pas de thunes et qui subissent ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Alors les meufs, vous n'aurez plus à choisir entre manger ce soir ou vous protéger cette semaine. Quand même, ça fait plaisir, un dilemme de moins. Et qui concerne, je précise, 1,7 million de femmes en France. Je vous avais dit que c'était très large, mais bonjour ce matin.
Nova.
Le morceau, le disque du jour, sélectionné par Queenie en fonction de l'actualité de ce jeudi. Et là, ça nous fait plaisir, c'est une actu qui nous concerne directement, puisque c'est notre fête, c'est la journée mondiale de la radio le 13 février. Bonne fête, Queenie.
Eh ben, bonne fête de la radio Nova.
Bisous.
Marie. Je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour ressortir, non pas les best-of de nos bafouillages préférés de vous et moi, parce qu'il y en a trop, mais dans ma sacoche, j'ai les meilleurs morceaux faits par des anciens membres de la radio Nova.
Oh.
J'ai fait un mini top 3, avec en premier Cracked Unit.
Classique, magnifique.
Cracked Unit, le projet de Loïc Dury, l'ancien directeur des programmes de Nova entre 87 et 97, et aussi DJ et compositeur de musique de film. Il a beaucoup bossé avec Clapiche notamment. C'est lui qui a fait le générique de 10% la série. Et
mais
le morceau,
il y avait des stars. Vous pensez qu'un jour on fera des génériques de séries ?
À la bouche. le morceau qu'on entend là sous nos voix, c'est Poupérus, un morceau donc de la BO et du film éponyme. Allez, un deuxième son de Radio Nova, c'est Rouge Rouge.
L'amour, l'amour.
C'est mi-fête de la radio, mi-Saint-Valentin.
Exactement, avec la voix de Marcel Mouloudji, samplée par Jean Croc et Nicolas Herrera, alias Rouge Rouge, qui animait le Pudding tous les dimanches soirs pendant 10 ans sur Nova. Et ils ont sorti un seul album en 2003 sur lequel figure donc ce morceau.
Un dernier gars sûr,
c'est Max Guiguet, mythique programmateur musical de Nova pendant 15 ans et qui a un projet génial qu'on adore qui s'appelle Blundetto. Et on s'écoute son morceau Slow Dance remixé par Voilà pour fêter la journée mondiale de la radio.
Bonne fête!
Slow dance with your woman. Slow dance with your man. Slow dance with your woman. Everybody slow dance, slow jam. Slow dance with your woman. Slow dance with your man.
Slow dance with your woman. Everybody slow dance, slow jam. With your woman, slow dance with your man, slow dance with your woman. Everybody slow dance, slow jam. Slow dance with your woman, slow dance with your man, slow dance with your woman. Everybody slow dance, slow jam. With your woman, slow dance with your man, slow dance with your woman. In a decision, everybody slow jam, slow jam. Dance with your woman, slow dance with your man. In a decision, everybody slow dance, slow jam.
Deux candidats au téléphone ce matin. Salut Toufik.
Bonjour.
Ça va?
Ça passe bien. Il fait froid.
Mais vous êtes dehors?
J'attends mon bus et puis je vais au boulot.
Ah, oh, on est sous un abribus. Mettez le haut-parleur pour que vraiment tous les gens du bus puissent nous écouter, s'il vous plaît, Toufik. On va faire exploser l'audience de Nova en un petit clic.
D'accord.
Toufik, j'espère que le bus ne va pas arriver pendant le jeu parce qu'il va falloir vous concentrer pour battre ce matin Ad qui veut jouer face à vous. Bonjour Ad.
Bonjour.
Vous êtes tout seul?
Oui, là je suis au chaud, donc voilà.
Bah voilà, Ad est mieux que Toufik. Bon, je sais pas qui va gagner, mais tous les deux on va vous faire jouer au même jeu, quelle que soit votre température extérieure. Vous allez affronter la dame de BFM TV ce matin. C'est une dame qui bosse à BFM et qui mate des films. Elle mate des vieilles VHS, elle est fan de vieux films. Elle va vous raconter un film, le premier qui me donne le titre a gagné. C'est clair?
Ok.
Alors écoutez bien ce qui va se passer, Toufik, vous avez la main pour le premier. Quoi? Non, on n'a pas le droit de tricher, vous jouez tout seul.
Ah Toufik. Bah, tu m'as dit de faire participer tout le monde.
Non, pas participer, qu'ils Pardon. Écoutent bien votre peut-être victoire. Toufik, écoutez bien le premier indice, c'est parti.
Tout commence ici. Dans cette petite communauté indienne du fleuve Amazon, Patricia Marchado a réussi à se faire adopter sans que personne ne se souvienne de son passé occidental.
Wesh, qui a zappé? Toufik, est-ce que vous avez une idée du film qu'on vient de vous raconter?
Non, pas du tout.
Ad?
Waouh. Non, mais je peux dire un truc histoire de...
Ouais, vous pouvez tenter.
Bah, ça paraît un peu bizarre, mais... Un indien dans la ville?
Alors, un indien dans la ville, c'est une tentation de Ad. On vérifie. Chacun sa route. Qu'est-ce qui se passe, le bus? En une réponse, Ad a gagné. Félicitations, mais c'était évidemment Patricia Marchado, la meuf de Thierry Lhermitte dans le film, et la mère de Mémé Sicu. Ad, vous avez une très belle culture cinéma.
Merci.
Félicitations. Toufik, bisous au contrôleur.
D'accord, bisous, et puis bravo à Ad.
C'est sport, ça c'est sympa.
Mais oui, bien sûr. Ad, on vous envoie deux places de ciné pour aller voir pas un indien dans la ville qui ne passe pas en salle, mais Queen and Slim. Très beau film, vous nous donnerez des nouvelles. Des bisous tous les deux.
Ok, au revoir.
Bye.
Je me ferai tout pour une poignée de dollars. Et ce sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Je te rappelle, quand tu claques, c'est 7 fois, 6 fois, plus. Et qu'on a plaisir à voir les nôtres au carrefour. Je me ferai tout pour une poignée de dollars. Et sera peut-être trop tard.
Faire 5 fois, 6 fois plus. Pour une poignée de dollars, connard.
Et qu'on a réussi à voir les noms trop parloir. Écoute, regarde,
avec un poignée de dollars,
les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. Deal, bise, braquage en temps de crise. Espèce de connard,
de leur colère, tu veilles.
7h, 9h, Marie Bonisseau et Queenie Tassel.
Il est 8h06 sur Nova. Nous accueillons, en plus de Marie Bonisseau et Queenie Tassel dans ce studio, notre invitée Maboula Soumaoro. Bonjour Maboula.
Bonjour
et
Marie,
bienvenue.
Bonjour Queenie.
Bonjour. Alors vous avez pris place dans ce studio pendant qu'on écoutait un disque qui vient de se terminer à l'instant et que vous connaissez par cœur. On a failli vous allumer le micro parce que vous...
Exactement, j'ai failli rapper avec Idéal.
Alors je vous laisse dire donc le titre de ce morceau, donc Pour une poignée de dollars.
Pour une poignée de dollars d'Idéal G. C'est le deuxième ou troisième album du groupe mythique Idéal dont est issu Kerry James et dont le DJ était le regretté DJ Mehdi. Donc c'est un album qui date de 1998 et c'est un des gros classiques du rap français.
C'est un gros classique et un classique qui vous est particulièrement cher puisque dans le livre que vous venez de sortir qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone, qui ne parle pas de géométrie hein, les gars, c'est rien à voir, le sous-titre c'est Réflexions sur une identité noire, ça vient de sortir aux éditions La Découverte, vous en parlez et, oui. c'est une pochette, Le Combat Continue, c'est une pochette que vous avez utilisée pour des travaux universitaires.
Exactement, en fait En 99, j'essayais de partir en échange universitaire et je devais faire un entretien pour une université américaine et j'ai décidé de venir avec la pochette de l'album d'Idéal. Et pour ceux qui connaissent, il y a Kerry James qui pose en Marianne et qui est vue de dos et qui est drapée dans le drapeau français. Et à l'intérieur du disque, il y a aussi la main noire qui agrippe ce drapeau français. Et je trouvais que les images, elles étaient hyper puissantes, hyper parlantes et qu'elles pouvaient servir d'introduction à ce que j'envisageais de faire pour cette université aux États-Unis. Ça n'a pas marché.
Non, mais j'ai... vous n'avez pas eu le poste.
J'ai pas eu le poste, mais j'ai été classée deuxième.
Et mais ils ont trouvé ça intéressant quand même.
Ils ont trouvé
comme
ça
approche.
Hyper intéressant et j'ai reçu une lettre vraiment très très mignonne me disant il faut absolument que vous arriviez à partir autre part. On est désolé de pas vous offrir le poste, mais ils ont été très touchés. Moi vraiment mon idée c'était de présenter puisque j'étais censée enseigner le français, la culture française.
Ouais.
Et ben je voulais enseigner aussi cette culture française qui m'appartenait, dont je faisais partie. Je suis moi-même du Val-de-Marne et donc je me suis dit Idéal, c'est parfait.
Idéal.
Ouais.
Ok. Pardon, désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors le triangle et l'hexagone, ce livre, c'est votre histoire. Là, on parlait de travaux universitaires, mais c'est la première fois que vous sortez un bouquin, c'est la première personne, pour
exactement
raconter votre histoire. Moi, j'avais un autre... Enfin, il y a une autre phrase qui, je trouve, résume bien ce livre, c'est « J'ai décidé de devenir noir
oui.
de mon plein gré
oui. ».
C'est cette histoire ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est mon histoire qui s'inscrit dans une histoire plus large. Donc j'essaye de faire un va-et-vient entre ma trajectoire personnelle et tout un champ d'études qui existe, un champ d'études scientifiques qui s'appelle les études de la diaspora noire africaine. Et donc moi, en l'ayant étudié donc depuis 20 ans, j'ai essayé de réfléchir à comment je m'inscrivais puisque je suis mon objet d'étude. Et pour cela, il a fallu que je m'autorise le jeu puisque dans la recherche scientifique, on est censé viser une objectivité, une distance critique
ouais.
qui ne marche pas, enfin à laquelle je ne crois plus du tout pour l'avoir pratiqué pendant longtemps, surtout depuis que je me suis aperçue que moi-même j'étais noire dans cette étude sur les noirs dispersés à travers le monde entier.
Mais vous dites je me suis aperçue que j'étais noire parce que ça a été progressif.
Oui, en fait, parce qu'il y a plusieurs identités. L'identité, on en parle souvent assez facilement, alors que c'est quelque chose, une question qui est très complexe. Et moi, j'ai grandi en France hexagonale, ivoirienne, Djoula, qui est le groupe ethnique auquel appartiennent mes parents. J'étais africaine aussi, identifiée comme telle. Je pouvais aussi être identifiée comme noire, mais toutes ces identités, elles ont été construites historiquement comme dévalorisées et dévalorisantes. Et en fait, quand je pars aux États-Unis, il y a 20 ans, eh ben, je découvre le champ intellectuel de la diaspora, donc les arts, comment dire, les religions, les spiritualités, la dimension politique, et je m'aperçois que je peux me définir comme noire, qui à mes yeux est plus grand que même africain, plus grand que Djoulam, plus grand qu'ivoirien, et que je peux entrer en conversation avec les Noirs du monde entier. Et ça fait du bien. Et surtout, je le décide. C'est-à-dire que si Noir a été créé comme une catégorie qui est censée être inférieure,
ouais.
moi, je me sens pas du tout inférieure et plus du tout inférieure depuis que j'ai connaissance de tout ce pan de l'histoire et des cultures du monde.
Nova ?
Eh, en vrai, le matin, c'est trop tôt.
Pour que tu rêves encore,
c'est tôt.
Mais non, c'est pas si tôt, surtout quand on a des conversations passionnantes comme ce matin avec notre invité Maboula Soumaoro, toujours en studio avec nous pour parler de votre bouquin qui énerve quand même pas mal de gens, hein, le triangle et l'hexagone, puisque vous, en fait, vous parlez d'un truc qui est assez tabou en fait en français, l'étude de la diaspora africaine.
Oui, et la mention de la race. Parler de race en France, c'est tabou.
Mais on est aveugle, on est daltonien, on est quoi en France?
Ben, on est dans le déni ou la dénégation. C'est-à-dire qu'on produit de la race, on parle de la race toute la journée, et ensuite, une fois qu'on met les pieds dans le plat, on dit non, on ne voit pas les couleurs et la République est une et indivisible. On ne fait la différence qu'entre les Français et les étrangers. Et moi, je suis censée être une femme noire, alors que je suis censée ne pas être noire. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la schizophrénie.
Et pourquoi vous avez voulu, avec le triangle et l'hexagone, rappeler que vous étiez une femme noire française?
Ben, j'ai voulu le rappeler pour mettre un terme à ce silence, et à un silence que je définis comme toxique, en fait. C'est comme si, à chaque fois, il y avait des choses qui effaçaient ou qui annulaient mes expériences personnelles, qui sont aussi des expériences de générations de populations disséminées à travers le monde. Donc le titre, c'est ça. L'hexagone, on sait très bien ce que c'est en France. Mais l'hexagone, il présente une vision limitée de la France. Quand on décrit la France comme hexagonale, on exclut même la Corse. Même la Corse ne fait pas partie de cet hexagone. Alors je vous laisse imaginer tous ces autres territoires, ceux qu'on appelle les territoires d'outre-mer, qui ont une relation très ancienne de plusieurs siècles avec la France. D'anciens territoires dits d'outre-mer qui ne sont plus des territoires d'outre-mer, donc les anciennes colonies. Et une fois qu'on envisage la France avec ce triangle atlantique, c'est là qu'on rentre dans une histoire plus élargie, plus complète et plus juste.
C'est une histoire que vous avez commencé à appréhender en allant à un autre bout du triangle, étudier aux États-Unis.
Voilà.
Et en fait, c'est là que vous êtes aperçu. Par exemple, vous le racontez dans votre livre, il y a plein d'anecdotes, mais vous dites, c'est la première fois qu'en fait on m'a dit, ah mais Maboula, c'est un beau prénom.
Exactement.
C'est dans une bibliothèque à New York qu'on vous a dit, mais il faut faire des recherches là-dessus.
Exactement. Donc parce que Maboula, évidemment, en arabe, il y a le terme Marboula qui veut dire la folle. Et puisque il y a des échanges entre la France et puis des pays arabophones, et ben il y a le terme Maboule qui est passé. Donc moi, c'était vraiment une horreur pendant mon enfance parce que
et
voilà,
pire,
j'avais un prénom.
Ça sonnait aussi comme
comme Bamboula,
ouais.
Oui, exactement, plus comme Bamboula et tout le passé colonial. Bamboula, c'est vraiment un terme péjoratif ancré dans le passé colonial de la France. Donc je voyage, je traverse l'Atlantique et là je tombe sur une femme qui un jour me dit « ton prénom est magnifique, d'où ça vient ?» Et je prends des cours, on me dit « mais tu connais ton nom de famille, est-ce que tu as fait des recherches sur ta famille ?» Et puis moi je commence à répondre « oui, ma mère m'a raconté des histoires, mais je n'ai pas fait trop attention. » Et c'est là qu'on me dit qu'en fait, peut-être ma lignée, ma généalogie ou ce que je représente peut avoir de la valeur. Et avant ça, en France hexagonale, moi je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, on n'avait jamais associé de la valeur, en tout cas à l'extérieur, pour les djoulas et pour ma mère notamment, on est les maîtres du monde, on est la race supérieure, il n'y a pas de souci. Mais ils n'avaient que très peu de puissance face à la France extérieure, qui pour moi était exotique à la base. Donc quand je pars aux États-Unis, je fais une sorte de détour, et c'est là que je prends conscience de cette diaspora. Je ne suis pas la seule à avoir été déplacée, je ne suis pas la seule enfant d'immigrés, et je découvre plein de choses, j'étudie.
Et vous revenez avec la super idée de faire des mémoires sur le black nationalism, comme on dit aux États-Unis, donc le nationalisme noir, et là on vous dit que ça n'existe pas.
Exactement, parce que le nationalisme noir, c'est vraiment l'idée ou l'envie de créer une nation noire, et c'est une idée qui est née dans les Amériques, justement dans le contexte de la traite négrière, de l'esclavage, c'est-à-dire que certains noirs radicaux, hein, ça j'en conviens, se sont dit, il nous faut notre propre pays, parce que ça n'ira jamais, il n'y aura jamais d'égalité raciale, que ce soit aux États-Unis, à la Jamaïque ou au Brésil.
C'est donc le mythe du retour.
Voilà, il faut qu'on reste entre nous, c'est des projets séparatistes. Soit on investit Haïti, par exemple, qui est la première république noire du monde, ou soit on retourne carrément sur le continent d'origine, même si c'est pas celui de nos origines propres, puisque il y a quand même des flous. Mais en tout cas, c'est une tradition politique et intellectuelle. Et quand je reviens, je dis que je veux travailler sur le nationalisme noir, et on me dit que le nationalisme noir n'existe pas. Et je pense que scientifiquement, intellectuellement, ma prof à l'époque voulait dire qu'il n'y avait pas de nation noire qui était née de ces projets ou de ces fantasmes. Mais c'est pas parce que la nation n'a pas été créée, même s'il y a Haïti qui existe vraiment, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas essayé de créer cette nation. Donc c'était un peu... c'est là que les problèmes ont commencé, on va dire.
C'est là que vous êtes aperçu d'un déni, de ce tabou en France.
Oui, de ce tabou, parce que je pense que mon corps aussi entrait dans la conversation. C'est-à-dire que là, je pense qu'aux yeux de cette prof, je passais pour une noire énervée, en fait. Voilà, pour une noire énervée, il fallait que je me calme, il fallait que je redevienne une universitaire, tout simplement, et que je fasse des sujets un peu plus académiques, un peu plus classiques, notamment pour envisager d'obtenir un poste au sein de l'université, puisque, comme on me l'a dit, il n'y avait pas de département de Black Studies en France, donc il fallait que je pense à tout ça, mais moi, ça ne m'intéressait pas de penser à tout ça.
Bon, les très intéressantes réflexions donc, que vous menez, puis votre histoire, sont à lire aux éditions La Découverte, Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire. Merci de nous avoir fait un peu réfléchir, c'était un début ce matin. Pour la suite,
c'est gentil, Marie-Écouine, merci de m'avoir invité. Au revoir.
Il est 8h22 sur Nova. Merci de vous réveiller avec nous tranquillement en ce jeudi 13 février. On va immédiatement, comme tous les matins à cette heure-là, prendre les transports en commun. Enfin, notre transport en commun, c'est Marie Transport, toujours avec Omar Youssef Souleymane, l'écrivain, poète, qui a obtenu l'asile en France après avoir lutté un an contre le régime de Bachar el-Assad. Une lutte qu'il raconte dans un très beau livre écrit en français, ça s'appelle Le Dernier Syrien. Et on écoute l'histoire dans Le Dernier Marie Transport.
Vous allez où ?
Service d'accompagnement de personnalité au travail.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Marie Transport, épisode 4.
Les poètes, les écrivains en exil, ils parlent souvent de leur langue comme du bout de pays qu'ils emmènent avec eux. Toi, t'as écrit en français, Le Dernier Syrien. C'est un choix d'écrire en français.
C'est un choix. Je dis toujours que je suis réfugié dans la langue française. Je suis réfugié dans la langue de Paul Éluard. Et j'avais une expérience exceptionnelle là-dedans. Quand j'ai rencontré mon éditrice, Louise Danon, qui est toujours mon éditrice, c'est elle qui m'a proposé, qui m'a encouragé à écrire en français parce qu'elle avait l'impression que je pouvais créer mon propre style dans la langue française. Et pour moi, c'était une expérience exceptionnelle, magique.
Un accueil, en fait. Elle t'accueillait dans la langue française.
Exactement. Voilà, elle m'a dit que
tu... Viens, c'est chez toi aussi.
Exactement, elle m'a dit, tu vas réussir. Et elle m'a suivi pas à pas pendant l'écriture de ce livre. Et pendant ces mois, j'ai commencé de penser en français, tu vois. C'est pas pareil. C'est-à-dire, c'était pas la traduction. Et depuis, grâce à cette expérience, j'écris toujours en français. Et je rêve en français. Et je dis toujours que je pleure en arabe parce que la langue arabe, c'est la langue de la mémoire, la langue de l'enfance. Mais je la garde toujours pour personnellement. Je la fréquente pas dans ma vie quotidienne, ni dans mes projets d'écriture.
On est sorti de l'Amourvache, du café dans lequel on était avec Omar. On va descendre prendre le métro. Tu l'as bien vécu, la grève?
On a passé la même... avec la grève, c'est chouette.
C'était compliqué. Et non, j'ai fait beaucoup de marches à pied, comme tout le monde. Hein. Les gens ont réappris à marcher dans cette ville avec la grève.
Bien sûr, avec la grève, on marche beaucoup. Et en plus, ça tombe bien parce qu'en plus, on a perdu pas mal du poids.
Tout le monde a perdu un peu de poids, a gagné un peu en mollet.
La vie est belle.
Hop, par là. De revenir en pensée sur cette année 2011-2012, ça n'a pas été trop douloureux? T'as fait des pauses justement parce que c'était dur?
Non, c'était pas douloureux. Au contraire, ça m'a aidé pour comprendre, tu vois. Ça m'aide pour comprendre. Surtout après tout ce que... la géographie dont on a perdu en Syrie. Par exemple, la maison de l'enfance, le quartier où j'ai grandi, ça n'existe plus. Donc j'essaie de retrouver ma mémoire géographique ici. Voilà, on rentre dans le métro, ça c'est chouette. Moi j'adore. Le métro, c'est tellement romantique, tu vois. Parfois, ça dépend le métro, en fait. Ça dépend de la grève, en fait.
Et est-ce que tu as accueilli après, au fur et à mesure des années, parce que tu es arrivé en 2012 à Paris, tu as obtenu l'asile assez rapidement. Est-ce que tu as ensuite accueilli d'autres Syriens qui arrivaient au fur et à mesure des années?
Bien sûr, j'ai accueilli des Syriens. Et je fais ça volontiers parce que... j'ai l'expérience et j'ai l'impression que je me redécouvre à nouveau quand j'accueille un Syrien ici. Parce que tu vois, les réfugiés en général, ce qu'ils ont besoin le plus, c'est la solidarité humaine, c'est sentir qu'ils ne sont pas seuls, tu vois. Et c'est très important, quoi. Tu veux qu'on sorte ici ou...
Comme tu veux, t'as rendez-vous à Châtelet?
À Châtelet, oui. Donc on peut sortir... Oui, on peut sortir à Châtelet quand même.
De sortir à Châtelet.
Marie Transport, une série à retrouver en podcast sur nova.fr. La chronique... textile.
Ivan Jacob, Bernie Sanders a gagné la primaire démocrate dans le New Hampshire, mais il n'est pas que le probable candidat à la présidentielle américaine, il est aussi, et ça vous concerne puisque vous avez une chronique textile, le roi du cool et de la tendance. Eh oui, Marie, Hot Girls for Bernie, vous savez ce que c'est, les jolies filles ou les bonnes meufs, si on est un peu moins poli, pour Bernie. C'est le mot dièse qui accompagne la campagne du sénateur.
Hot Girls for Bernie, ouais. Pardon, d'accord.
Il rassemble surtout des inconnus, ce hashtag qui poste des selfies plus ou moins dénudées en soutien à leur candidat. Mais il est aussi le reflet d'un nombre conséquent de stars sexy qui affichent leur soutien au Bern. Ariana Grande, Cardi B et fleuron de ses supporters, la très jolie mannequin Emily Ratajkowski, qui pose souvent dans des toutes petites culottes. Elle a récemment porté un t-shirt et un pull à l'effigie de son Bernie.
D'accord, très bien. Et c'est pas son seul contact avec l'univers de la mode ?
Non, en 2017, il a même été l'égérie d'un défilé de mode. C'était pour la collection automne-hiver de Balenciaga, avec sur le podium des t-shirts, des écharpes et un bomber imprimé du logo de sa campagne à la primaire de 2016. Plus récemment, pendant la finale du Super Bowl en janvier, une pub pour un parfum Bernie Sanders a été diffusée sur les réseaux sociaux. Introducing Brunei, the people's perfume. Bernie, le parfum des gens. Fausse pub, mais vrai spot de campagne. On y voit des jeunes gens s'aspergeant langoureusement sur une plage à l'aide d'un flacon de parfum surmonté d'une petite tête de Bernie. Elle reprend cette pub tous les codes de l'univers de la mode.
Oui, très bien, mais pourtant son look est pas foufou à Bernie Sanders.
Non, on peut pas véritablement parler d'un sens du style. Au contraire, Bernie a un look un peu chiffon, des cols de chemise mal fagotés, une cravate de travers ou pas de cravate du tout, et les cheveux, ou en tout cas ce qu'il en reste, souvent en bataille. Il l'avoue lui-même, parmi mes nombreuses qualités, on ne trouve pas celle d'avoir du style ou d'être le roi de la mode.
Mais l'apparence reste fondamentale en politique.
Et oui, Hillary Rosen, une consultante média pour le Parti démocrate, expliquait en juin au New York Times, c'était donc au début des primaires, 10% de la façon dont vous êtes reçu par le public dépend de ce que vous dites, 10% de la façon dont vous le dites et 80% de votre apparence. En plus, il faut imaginer que pendant les débats, le temps de parole est ultra limité, ils ont moins de 10 minutes de parole sur des sessions qui peuvent durer des heures. Beaucoup se joue donc en dehors de la parole. Et pourtant, son apparence pas très soignée, eh ben, elle ne lui porte pas préjudice à Bernie Sanders, à l'inverse d'un François Hollande, par exemple. On s'était beaucoup moqué de lui, rappelez-vous, pour sa cravate de travers. Un site internet lui avait même été dédié.
cravatedefrançoishollande.org.
Ouais, c'est très ça, bien. Exactement. En admettant ses lacunes en matière de mode, avec humour et sans dédain, Bernie Sanders a déjoué les critiques tout en faisant passer l'idée que ça n'était pas vraiment un sujet. Ça le rend crédible parce qu'il n'a pas le temps à perdre avec les vêtements, parce qu'il doit s'occuper de choses bien plus sérieuses, comme par exemple l'assurance santé universelle.
C'est soit un look, soit l'assurance santé universelle. En gros, son discours à Bernie Sanders, ce qui est intelligent, c'est que ça colle avec son style.
Et ça va même plus loin, Marie. Le mot dièse, Hot Girls for Bernie, il n'est pas discriminant. Au contraire, il ne faut pas faire d'erreur d'interprétation, parce qu'en fait, ce que disent les supporters, c'est que être sexy, c'est d'abord être soi-même, assumer qui l'on est, les valeurs qu'on défend. Et si vous regardez bien, c'est précisément le message à la mode dans le monde de la mode en ce moment, avoir des valeurs, promouvoir la diversité des corps, des origines, être fier de son corps même s'il ne correspond pas au canon de la beauté, c'est ce qu'on appelle le body positivisme. Et la morale de cette histoire, Bernie, c'est le moins soigné, et pourtant c'est lui qui gagne. La preuve aussi que l'apparence peut quand même parfois laisser place au vrai discours.
Oui, bah du coup, pourquoi on se fait chier là ?
Quoi ?
Mettre les boutons
à s'habiller ?
Bah, on se bernissande. C'est David qui tente sa chance ce matin. Salut David.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien, impeccable.
Vous nous appelez d'où ? Vous êtes sous un abribus dans votre lit ?
Non, je suis. On va au boulot là. Je vous appelle de Bordeaux.
Qui on ?
Avec un collègue. Salut, Fabienne.
Salut Fabienne. Bon, bah vous pouvez jouer à deux. Hein. On peut essayer. Je sais pas si ça va vous aider ou pas. Des fois, quand on joue à deux, on perd du temps à se souffler les réponses.
Ouais.
Alors, bon, bah David et Fabienne, tout commence par joue ce matin, comme joute, jouvence,
d'accord.
Julio Iglesias. Ok.
Ok, ça marche.
Le record, il est à 11. Il faut le battre.
11. Ah ouais, d'accord.
Ok. Okay. Puis comme vous êtes deux, vous ferez 22. Allez, c'est parti. Allez. 45 secondes.
C'est parti.
Alors, c'est pas la nuit.
Le jour.
C'est pas triste.
Joie.
C'est sous les yeux.
Les joues.
Oui, c'est non. Bon.
Oui, les
c'est
joues.
Les joues sous les yeux. C'est quelqu'un qui a des grosses joues.
Joufflu.
Ouais, c'est le verbe avoir un orgasme.
Jouir.
C'est le J de JT.
Journal.
C'est une ville qui finit par Anjosas.
Je passe.
C'est une belle.
Journée.
C'est tous les jours.
Journalier.
C'est une demoiselle au Moyen-Âge.
Jouvencel.
C'est un demoiseau au Moyen-Âge.
Jouvenceau.
Le Monopoly, vous faites quoi avec ?
On joue.
L'énergie, ça se mesure en quoi ?
Anjoul.
Ok, complétez cette liste. Bijou, caillou, hibou.
Joujou.
C'est quoi?
C'est Fabienne là qui est en train de parler dans la boîte à gants.
Je valide Joujou.
Vous validez Joujou?
Bien sûr.
Vous validez Joujou?
Voilà. Vous avez... C'est un record, les mecs.
Pétez le record. Ils ont fait 13 points.
Waouh.
Il y a juste une petite erreur sur Jouy-en-Josas qui nous a un petit peu déçus. Ouais.
C'est une ville qui est au sud de Paris qu'on aime beaucoup avec Queenie parce qu'il y a une piscine municipale avec
on
des couloirs
parfois,
où il n'y a personne.
Bref. Félicitations David, 13 points, c'est beau hein.
Eh ben merci, ouais, c'est pas mal.
Alors
merci
par contre, on peut préciser, félicitations David et Fabienne, ouais. Parce qu'on avait deux personnes
exactement.
Sur ce
dos. On a droit d'être combien dans ce jeu au maximum.
Eh ben écoutez, si vous étiez conducteur de bus, vous auriez pu faire participer tous les passagers. Oui. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça. On est ensemble ce matin. Bravo
vous
les gars.
Peut-être éventuellement partager le matelas.
Ah oui, vous pourrez dormir à deux sur le matelas,
voilà,
Tidibert,
entre collègues.
Où est-ce que vous allez, là, les covoitureurs de Bordeaux?
Comment?
Vous allez où, là? Vous allez avec... C'est quoi votre travail?
Au boulot, on est paysagiste.
Ah,
trop bien.
Bah foutez-nous un sapin là devant notre périph.
Ouais.
Venez nous foutre des sapins là, on en a marre de voir les voitures. Je vous souhaite un très beau jeudi et je vous dis une dernière fois bravo.
OK. Merci beaucoup.
Nova.